Alors, bienvenue à tous pour cette heure sainte. Nous saluons les auditeurs de Radio Espérance en cette veille du premier vendredi du mois de février. Alors, les rencontres de Parelmonial qui commencent ce soir vont avoir comme thématique principale l'Écriture, la parole de Dieu, en lien avec le cœur de Jésus. Ou pour le dire autrement, le cœur de Jésus dans l'Écriture sainte. C'est un sujet que nous avons déjà plusieurs fois abordé, mais il y a peut-être des éléments nouveaux que je voudrais apporter aujourd'hui. La parole de Dieu, eh bien, nous l'avons célébrée le 26 janvier dernier, pour la première fois, le premier dimanche de la parole de Dieu voulue par le pape François, voulant faire pour les baptiser de la parole de Dieu vraiment la nourriture absolument centrale, vitale. C'est vraiment la parole de la vie. Et donc le pape François a voulu que nous célébrions ce don de Dieu particulièrement, et nous l'avons fait avec une certaine solennité, en particulier en vénérant l'évangélière. Alors, comme sorte d'introduction un petit peu fondatrice, la parole de Dieu est avant tout et par-dessus tout le Verbe de Dieu. Le Verbe, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité. Et nous l'entendons dès le tout début de l'évangile de Jean dans son prologue. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Donc le Verbe, c'est la parole. Dans le livre de la Genèse, dans le premier récit de la création, au tout premier chapitre, à plusieurs reprises vient comme une sorte de leitmotiv, Dieu dit, par exemple, que la lumière soit, qu'il y ait les continents, etc., qu'il y ait les luminaires. Dieu dit et cela fut. Donc Dieu dit, cela signifie qu'il crée par sa parole. Et cette parole, c'est justement le Verbe divin, la deuxième personne de la Trinité, qui est la parole créatrice par laquelle Dieu crée toutes choses. Et Jean nous le confirme aussi dans son prologue, justement, par lui, en parlant du Verbe, par lui, tout a été fait, et sans lui, rien ne fut. Donc Dieu dit, et c'est déjà la parole dans sa dimension d'éternité, de divinité et d'éternité, qui est constamment à l'œuvre dans l'acte créateur. Et alors, dans le livre de la Genèse, le Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, cette fois-ci nous focalisons sur les trois personnes, le Dieu Trinité se réjouit à plusieurs reprises, comme un nouveau leitmotiv là aussi. Dieu vit que cela était bon, et pour l'homme, homme et femme qu'il a créé à son image, c'était très bon. En lisant le début du livre de la Genèse un petit peu à cette lumière, en contemplant le Verbe, c'est déjà le cœur de Dieu, là je mets cœur entre guillemets, c'est déjà le cœur de Dieu qui s'exprime, ce cœur qui, au temps voulu, à la plénitude des temps, va palpiter dans la poitrine de Jésus. Ce cœur qui a tant aimé les hommes, comme il le dit à Marguerite Marie, mais cette parole, avez-vous noté la connotation scripturelle ? Ce cœur qui a tant aimé les hommes, cela fait écho en fait au verset de Jean, chapitre 3, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils ». C'est ça. Et là, Jésus, lors de la troisième grande apparition, confirme cette parole de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il l'a envoyé pour sauver le monde. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Alors Jean, dans son prologue, du coup, c'est la grande étape, justement, nous dit « Et le Verbe s'est fait chair ». Dans le mystère de l'incarnation, la parole elle-même se fait chair. La parole créatrice, qui est en même temps parole rédemptrice, et parole qui accomplit toute chose. La parole se fait chair. Et toute la parole de Dieu, toute l'Écriture, habite comme dans un tabernacle, dans le cœur de Jésus. Toute la parole de Dieu habite, comme dans un tabernacle, dans le cœur de Jésus. C'est ce que nous allons essayer maintenant d'explorer un peu plus. Jean, dans l'épisode du côté transversé, c'est-à-dire au chapitre 19 de son évangile, nous dit, en parlant de lui, le témoin, « Celui qui a vu rend témoignage pour que vous aussi vous croyez. » Et alors, pour appuyer ce témoignage, l'évangéliste va clairement avoir, explicitement avoir recours à l'Écriture, et il va en citer deux extraits, nous les connaissons bien, « Car cela est arrivé, dit-il, afin que l'Écriture fût accomplie. » C'est ça qui est important, « afin que l'Écriture fût accomplie. » Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Alors, il cite deux passages de l'Écriture. Mais je pense qu'il faut prendre conscience de l'ampleur de cette parole. Cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Il ne faut pas comprendre ce verset de manière restrictive, comme si seulement ces deux passages qu'il cite, ces deux passages précis de l'Écriture, trouveraient leur accomplissement dans l'événement du côté ouvert. Il me semble qu'on doit dire que dans l'esprit et dans l'optique du quatrième évangéliste, il faudrait comprendre que c'est toute l'Écriture qui s'accomplit au moment même du transpercement du côté. On peut voir aussi que les écrits de Jean sont intensément scripturaires. C'est peut-être lui qui cite en nombre, en quantité, le plus grand nombre de passages du Premier Testament, de ce qu'on appelait alors à son époque les Écritures, quand le Nouveau Testament n'avait pas encore été rédigé. Et surtout l'Apocalypse, alors là il y a des citations littéralement au mètre carré. Dans l'édition de la Bible de Jérusalem, c'est très facile à repérer. Toutes ces citations sont en italique. Et là, on voit que constamment, au moment justement où il décrit l'accomplissement de toutes choses, dans le Christ, dans la Jérusalem céleste, dans le règne de Dieu, dans la victoire finale de Dieu sur le mal et sur les ténèbres, eh bien c'est là qu'il cite le plus l'Écriture, pratiquement tout le temps. Plusieurs fois même, plusieurs citations à l'intérieur d'une seule phrase ou d'un seul verset. Donc, concernant Jean, il faut dire que pour lui, c'est toute l'Écriture qui s'accomplit. Au moment du transpercement du côté. Et si Jean finalement cite deux passages comme révélateur d'un accomplissement beaucoup plus global, c'est pour mieux souligner la totalité. Parce qu'en plus, ces deux passages, mais ça nous n'aurons pas le temps, je ne pense pas en tout cas aujourd'hui, de les explorer, mais ces deux citations, en fait, c'est une clé, c'est une porte qui ouvre sur un paysage scripturaire immense. Ce n'est pas simplement le verset, les quelques mots qui sont donnés, mais ils ouvrent la compréhension à plein de passages de l'Ancien Testament, du Livre des Écritures, pris de façon très éparse. Si nous avons le temps, nous en donnerons un petit échantillon tout à l'heure. Quelques considérations encore pour mieux exploiter cet aspect de l'accomplissement de toute l'Écriture en référence au cœur ouvert de Jésus. C'est cet événement qui semble être pour Jean, le transpercement lui-même, comme le moment symbolique du dévoilement du sens plénier de l'Écriture. Ce sens qui jusqu'alors était resté en partie voilé. Et c'est là que je voudrais maintenant vous lire un extrait du paragraphe 112 du catéchisme de l'Église catholique, qui s'inspire de saint Thomas d'Aquin. et qui est d'une extrême importance pour comprendre l'exégèse par rapport au cœur de Jésus, par rapport à la personne du Christ et en particulier à son cœur. Le catéchisme, d'abord, nous invite à porter une grande attention au contenu de l'Écriture, mais aussi à l'unité de toute l'Écriture. Il y a une unification qui se fait. Et le paragraphe en question nous dit, en effet, aussi différents que soient les livres qui la composent, l'Écriture est une en raison de l'unité du dessein de Dieu. Et l'unité du dessein de Dieu, c'est le Christ Jésus qui en est le centre et le cœur, ouvert depuis sa Pâque. Donc voyez, c'est chargé de signification symbolique ce que dit le paragraphe du catéchisme ici. Je le redis parce que c'est très dense. Aussi différents que soient les livres qui la composent, l'Écriture est une en raison de l'unité du dessein de Dieu dont le Christ Jésus est le centre et le cœur, ouvert depuis sa Pâque. Autant dire que le cœur de Jésus est vraiment le centre même, le noyau, le puits profond de tous les trésors scripturaires qui nous ont été donnés. Et le catéchisme fait carrément ici une identification. Le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture. Et la Sainte Écriture fait connaître le cœur du Christ. C'est vrai. Si on se contente simplement de lire le chapitre 19 de Saint Jean, eh bien on n'avancera pas beaucoup. C'est écrit de façon extrêmement sommaire, lapidaire, une extrême concision. Un des soldats de sa lance lui perça le côté. Il en sortit aussi tout du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est vrai, afin que vous aussi vous croyez. Et cela est arrivé afin que l'Écriture s'accomplit, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Il nous faut bien explorer toute l'Écriture pour comprendre le cœur de Jésus. Donc il y a une réciprocité, si vous voulez. C'est le cœur de l'Écriture qui s'ouvre, donc le dévoilement plénier, sens qui jusque-là était resté en partie voilé. Donc je reprends ce que dit le catéchisme. Le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture et la Sainte Écriture fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur, dit le catéchisme, était fermé avant la Passion, car l'Écriture était obscure. Mais l'Écriture a été ouverte après la Passion, car ceux qui désormais en ont l'intelligence considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. En d'autres termes, cela signifie que l'ouverture du cœur de Jésus nous livre, libère en quelque sorte, par le transpercement, la plénitude du sens de l'Écriture par rapport au sens partiel qui prévalait jusqu'alors. Une plénitude de sens qu'on ne peut trouver que dans le Christ. Et là, c'est toute l'exégèse justement des pères de l'Église et des théologiens, de tout centrer sur le Christ et de commenter l'Écriture à partir même du mystère du Christ. Donc c'est le sens plénier qui jusque-là était voilé. Mais attention, l'écueil dans lequel nous ne devons pas tomber, il ne faut pas dire que finalement tout n'a de sens que dans le Christ, puisque le Christ a tout accompli. Non, même le sens partiel de l'Écriture est extrêmement important dans sa densité. Je vais prendre un exemple. Plutôt que de faire de la théorie, je vais prendre un exemple très clair. Les pères de l'Église nous disent que l'ouverture du côté du Christ sur la croix, d'où jaillit le sang et l'eau, c'est la naissance de l'Église en fait. C'est la naissance mystique de l'Église, symbolisée par les deux sacrements, l'eau, le baptême, et le sang, l'Eucharistie. Et saint Paul nous dit que l'Église c'est l'épouse du Christ. Et saint Paul nous dit dans une autre épître que Jésus, le Christ, est le nouvel Adam. Donc il y a une référence là au livre de la Genèse, surtout au chapitre 2. Adam dans le jardin et la création de Ève. Alors les pères de l'Église nous disent que l'Église est née du côté ouvert, l'Église épouse est née du côté ouvert du nouvel Adam, de même que la première Ève a été suscitée à partir du côté ouvert du premier Adam, endormi dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, Dieu a fait tomber un sommeil sur le premier Adam, dans le jardin de la Genèse. Et en ouvrant son côté, il a suscité Ève. Et Adam, se réveillant, dit « Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée femme, celle-ci. » Alors les pères de l'Église l'appliquent, aidés bien sûr par saint Paul, qui dit que l'Église est vraiment l'épouse du Christ. Eh bien, les pères de l'Église vont dire que c'est ce qui arrive au Golgotha. L'épouse qui jaillit en quelque sorte du côté ouvert du nouvel Adam, lui aussi endormi dans le sommeil de la mort sur la croix, et endormi, et rien n'est neutre chez saint Jean, le grand théologien exégète, dans un jardin. Quelques versets plus loin, il dit « Or, il y avait là un jardin ». Au lieu où il avait été crucifié, dans ce jardin, un tombeau neuf. Donc voilà l'exemple. Mais attention, le récit de la Genèse, qui nous parle de Adam et de la création de Ève, et de la vocation d'Adam et Ève dans le jardin originel d'Éden, garde toute sa densité. Il ne faudrait pas se dire relativiser, de dire ce n'est pas important, l'essentiel c'est Jean 19, c'est là que tout s'accomplit. Ce serait faire preuve d'abord de paresse, tout simplement, exégétique, et ce n'est pas vrai du tout. C'est que le message du livre de la Genèse est extrêmement important sur la vocation de l'homme, qui ne trouve aucune aide parmi les animaux, et à qui il faut donner une aide qui lui soit parfaitement assortie, une assistance dans la complémentarité. Hommes et femmes, il les créa. Et avec l'injonction de cultiver la terre, voilà, dans laquelle il a été mis, la terre d'Éden. Donc il y a une densité de sens qui est déjà en elle-même extrêmement importante. Et c'est cette densité de sens qui nous fait comprendre du coup le sens même du transversement du cœur, qui ressaisit d'une certaine façon toute l'Écriture, où il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se fait. Le nouvel Adam, qui n'est pas le premier Adam, et puis l'Église éternelle, qui est l'épouse, et la nouvelle création qui advint, et ce jardin du Golgotha qui devient comme le jardin d'une nouvelle Genèse. Mais pour bien comprendre ce que je veux dire par la plénitude de sens, c'est un petit peu l'analogie est celle-ci. Dans la nuit ou dans la pénombre ou au tout petit matin, avant le lever du soleil, on distingue déjà les paysages. On peut discerner les arbres, les collines, les rivières, etc. Ou les hautes montagnes a fortiori. Mais quand le soleil se lève dans tout son éclat, alors là c'est magnifique, mais alors attention, le soleil lorsqu'il s'élève, il peut éblouir, mais il n'engloutit pas, il ne fait pas disparaître toute la réalité. Pas du tout. Il l'éclaire. Il lui donne son éclairage définitif. Mais le paysage garde son importance. Donc toute l'Écriture garde son importance. Mais elle s'éclaire pleinement, uniquement, finalement, dans le Christ. Donc il y a une réciprocité. L'Écriture nous dit qui est le Christ et le mystère de son cœur. Et le Christ nous explique profondément le sens profond et caché peut-être parfois de toute l'Écriture. Et donc c'est à la lumière du cœur transpercé que nous comprenons réellement l'Écriture. Si vous voulez relire, donc, je vous redonne la référence, c'est le paragraphe 112 du catéchisme de l'Église catholique, inspiré d'ailleurs justement de paroles de saint Thomas d'Aquin. Donc je reprends un petit peu. Avec le cœur transpercé, c'est le cœur de l'Écriture qui s'ouvre et qui répand donc le sens total de la parole de Dieu. Jésus, en effet, est le Verbe, la parole de Dieu, et cette parole donc s'est faite chair, et le cœur de l'Écriture a été transpercé comme pour libérer le sens de cette parole que Jésus est lui-même. Il n'est pas sans signification que ici même, au XVIIe siècle, parmi les nombreuses révélations dont a bénéficié Marguerite Marie, on relève l'épisode suivant. Marguerite Marie voulait faire oraison et chercher, parmi les ouvrages qu'elle avait à portée de main, quelque chose qui puisse nourrir sa prière. Alors Jésus lui montre son cœur et lui présente comme étant le seul livre en lequel elle pourrait puiser toute la science, la seule dont elle avait besoin, la science de l'amour. Donc c'est Jésus lui-même qui présente son cœur comme un livre. Et alors, comme le dit éloquemment une hymne du bréviaire, dans une des hymnes du bréviaire qu'on trouve les vendredis soirs, parfois, on s'adresse à Dieu et on nous dit « Explique-nous le livre ouvert. Explique-nous le livre ouvert à coup de lance. » C'est la lance qui a ouvert le livre. Et c'est cela donc que Jean, le grand exégète de la parole de Dieu, l'interprète de la parole faite chair, a profondément perçu. En méditant les Écritures qu'il connaissait parfaitement et en les confrontant sans cesse à l'événement du côté ouvert qu'il décrit dans son Évangile, il nous fait finalement comprendre que c'est toute l'Écriture qui converge explicitement ou implicitement, parfois de manière directe, et ça fera un petit peu l'objet de nos enseignements de demain, parfois de manière directe, parfois de manière allusive, vers ce point central et culminant de la révélation qu'est pour lui le cœur du Verbe fait chair, ouvert par la lance du soldat. Le cœur de Jésus est le livre ouvert, je le redis, qui délivre le sens plénier de la parole de Dieu. C'est comme pour dire d'une certaine façon que la mort du Christ ne suffisait pas pour recevoir la plénitude de la révélation du Dieu amour. Il fallait que le cœur soit ouvert. Et alors là, maintenant, je me réfère justement à un passage un petit peu énigmatique de l'Apocalypse, que nous comprendrons peut-être mieux maintenant à la lumière de ce que nous venons de dire. Le cœur de Jésus est par excellence justement ce fameux livre scellé qui ne pouvait être ouvert que par l'agneau, le livre aux sept sceaux. Je lis ce passage de l'Apocalypse du chapitre 5. « Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et ces gens qui parlent là, le voyant de l'Apocalypse, et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux sept sceaux. Alors je vis debout entre le trône, aux quatre vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les quatre vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Et écoutez bien pourquoi, là on rejoint le raisonnement de Thomas d'Aquin et du catéchisme. Donc je reprends la phrase. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé. Et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. » Jésus, comme référence absolue pour la plénitude de sens de l'Écriture. Nous avons dans un autre évangile que celui de Jean un exemple extrêmement éloquent. C'est Jésus et les deux disciples d'Emmaüs sur la route. Le cœur brûlant des deux disciples, comme ils le disent eux-mêmes, notre cœur n'était-il pas brûlant quand ils nous commentaient, expliquaient les Écritures? Et là, Jésus, il parcourt l'Écriture dans toute sa diversité pour lui donner un sens unifiant. C'est en lui que le sens de toute l'Écriture s'unifie, de tous ces passages extrêmement divers, les prophètes, le Pentateuch, les prophètes, les psaumes, etc., les livres de la sagesse et autres. Tout trouve son unification dans le Christ et dans son cœur de ressuscité, lorsqu'il parle aux deux disciples d'Emmaüs sur la route. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Alors justement, peut-être que j'ai dû le faire souvent, pas mal des sœurs ici connaissent cet éclairage que je donne par rapport à la tradition juive, mais je la redonne parce que je la trouve très belle, surtout par rapport à ce passage des disciples d'Emmaüs avec Jésus sur la route, qui dévoile l'Écriture, et les disciples qui, au retour, disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Ça parle justement de la parole de Dieu, une tradition juive qu'on appelle le collier. Dans la tradition juive, on dit que lorsqu'un rabbin avec ses disciples se réunit pour étudier la parole, qu'il prend divers passages qui apparemment n'ont rien à voir les uns avec les autres, très diversifiés, qui prend divers passages de l'Écriture, mais qui trouve un sens qui les unifie, chaque passage explicitant l'autre finalement. Alors ce sont comme les perles d'abord dispersées qui sont unifiées par un collier, par le fil ou la chaîne du collier. Et ça, c'est donc le collier fait avec plusieurs passages de la parole de Dieu et unifié donc par ce collier. Alors l'Écriture dit, c'est la tradition juive dit que lorsque un collier a parfaitement été réussi et qu'il plaît à Dieu, alors Dieu, pour récompenser le rabbin et ses disciples, fait descendre la chaleur du feu du Sinaï, la montagne où a été donnée la loi. Le feu du Sinaï repose sur l'Assemblée. Il est absolument évident que les disciples d'Emmaüs, avec saint Luc, alors saint Luc n'était pas juif, mais c'était enquis, comme il le dit, très très exactement de la loi et de la voix qu'il proclame, eh bien c'est une allusion à cela. En fait, Jésus, le rabbi par excellence, a fait un collier extraordinairement beau et parfait. Et ce qui unifie tous ces passages dont il est dit, la loi, les prophètes, les psaumes, ce qui unifie, c'est sa personne. Il leur expliqua, est-il dit dans l'évangile de Luc, sur la route, il leur expliqua tout ce qui le concernait. Voilà la parole de Dieu. Et le tabernacle de cette parole de Dieu, c'est le cœur de Jésus, le livre ouvert à coup de lance. Pardon mes sœurs pour cette parole sur le collier que je ressors à peu près tous les 2 ans, à peu près, comme ça, enfin, les années paires, voilà. À mon avis, je l'ai sorti plus souvent que ça, mais voilà. Alors, maintenant, tout ce que nous avons dit, surtout par rapport à Jean 19, ne serait pas compréhensible s'il n'y avait pas aussi le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Jean qui repose sur le cœur de Jésus. Il y a une centralité scripturaire dans ce chapitre 13. Là encore une fois, très sobre, Jean ne dit presque rien. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était tout contre Jésus. Et un peu plus tard, renversant sa tête sur la poitrine de Jésus, il lui demande « Qui est-ce ?» Et on apprend que c'est le disciple que Jésus aimait. L'expérience de la proximité particulière avec le cœur de Jésus, que Jean a vécu au cours de la dernière scène, est une clé importante pour comprendre sa capacité surnaturelle, là je parle de Jean, à sonder les mystères de Dieu et le sens plénier de toute l'Écriture. Par exemple, le prologue de Jean, qui est un abîme de contemplation théologique, est quand même directement inspiré, mais en le dépassant à l'infini, du premier récit de la création, au commencement. Au commencement, nous dit le livre de la Genèse, bon, il y avait le chaos, etc. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a séparation de la lumière et des ténèbres. Avec Jean, il y a visiblement une inspiration de tout cela, mais qui va plus loin. Ce n'est plus la lumière créée, c'est la lumière incréée, la lumière divine de la parole, du Verbe, qui vient dans le monde. Il était la lumière qui vient dans le monde. Et séparation de la lumière et des ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas saisi. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi. De même, dans le premier récit de la création, nous avons ce sommet du premier chapitre, la création de l'homme et de la femme. Homme et femme, il les créa à son image. Or là, maintenant, ce n'est plus la création de l'homme, c'est l'avènement de l'homme nouveau en vertu de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair. Ce n'est plus la création de l'homme, c'est Dieu lui-même qui se fait homme en vue du renouvellement de la nature humaine tout entière. Au point que ceux qui ont reçu cette lumière et qui ont été adoptés ne sont plus fils de la chair et du sang, mais enfants de Dieu. Donc le prologue de Jean est vraiment greffé sur le premier récit de la création, mais le dépasse infiniment. Donc je le redis ici, la proximité que vit Saint Jean et qui est très mystérieuse pendant le dernier repas, reposant sur le cœur de Jésus, est une clé importante pour comprendre sa capacité à sonder les mystères de Dieu. Au contact du cœur de Dieu, du cœur du Fils lui-même, qui est, selon le prologue, tourné vers le sein du Père, donc au contact du cœur de Dieu, du cœur du Fils, lui-même tourné vers le sein du Père, il est donné aux disciples bien-aimés d'explorer le commencement éternel, la nouvelle Genèse, dirons-nous, au commencement était le Verbe. De même, il lui sera aussi donné d'explorer l'avenir éternel. Il entreverra le règne de l'agneau immolé et victorieux dans la Jérusalem céleste, dans le monde à venir. Et ça, c'est l'objet du livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est là que je vous ai dit qu'il y avait le plus grand nombre de citations de l'Écriture, précisément. Tout cela, et là c'est très mystérieux, saint Augustin en parle magnifiquement, Edith Stein aussi, dans un passage que je vais peut-être relire. Tout cela vient de cette proximité qu'il vit avec le cœur de Jésus. Edith Stein nous dit, « Jean put reposer sur le cœur de Jésus et être initié au mystère du cœur divin. » être initié au mystère du cœur divin. Et saint Augustin nous dit, écoutez l'apôtre Jean. C'est lui l'apôtre qui reposait sur la poitrine du Seigneur et qui, en ce repas, buvait les célestes secrets. Sous l'emprise de cette boisson, de cette heureuse ivresse, il proclama « Au commencement était le Verbe ». Donc saint Augustin voit une véritable sorte de surabondance de l'Esprit-Saint, dont la source est le cœur de Jésus, et qui lui a permis de sonder à ce point donc le mystère abyssal de l'incarnation du Dieu qui se fait homme, sans cesser d'être Dieu. Et comme nous l'avons dit, d'entrevoir l'accomplissement de toute cette histoire sainte qui commence avec la création, qui passe par le long processus de la rédemption et qui aboutit à la lumière éternelle et à la gloire de la Jérusalem céleste. Écoutez, nous dit Edith Stein, Jean, celui qui a pu voir Dieu parce qu'il avait un cœur pur. Nul n'a pu plonger plus profondément que lui dans la contemplation des abîmes cachés de la vie divine. C'est pourquoi il nous annonce le mystère de l'engendrement éternel du Verbe divin. Il a partagé les combats de son Seigneur comme seul peut le faire une âme qui aime d'un amour sponsal, c'est-à-dire nuptial. Et donc la parole de Dieu, je vois que le temps avance, je vais donc conclure. L'essentiel que nous devons comprendre, c'est que pour goûter la parole de Dieu, comme nous y invite le pape François, avec l'inauguration de ce dimanche de la parole de Dieu, il nous fait être profondément unis dans le cœur de Jésus. Et je vais terminer justement parce que c'est tellement en rapport avec ce que nous vivons ici, dans cette chapelle ou dans la chapelle Saint-Jean, à Paray-le-Monial. Toute la plénitude inépuisable, c'est Edith Stein de nouveau, toute la plénitude inépuisable de la vie à la fois humaine et divine de Jésus nous est donnée par les écrits de Jean. Venez et buvez aux sources de l'eau de la vie que le Seigneur fait couler pour les assoiffés et qui jaillissent en vie éternelle. Et le même Sauveur que la parole de l'Écriture nous met sous les yeux, donc le même Sauveur, c'est ça qui nous importe là maintenant, et le même Sauveur que la parole de l'Écriture nous met sous les yeux dans son humanité, en nous le montrant sur tous les chemins qu'il a parcourus sur la terre, habite maintenant parmi nous, caché sous l'apparence du pain eucharistique. Il vient à nous tous les jours comme pain de vie. Dans ces deux aspects, il se fait proche de nous et sous ces deux aspects, il désire que nous le cherchions et que nous le trouvions. L'inséparable, l'indissoluble complémentarité, unité entre la parole que nous lisons, que nous proclamons et le pain de vie. Et ça, la messe, le rite catholique le signifie admirablement. En présentant la table de la parole dans un premier temps, puis la table de la nourriture divine. Mais l'un sans l'autre n'aurait pas de plénitude de sens. Nous nous arrêtons là, simplement avec cette simple invocation, « Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. »